Bonjour. Aujourd'hui, une nouvelle émission qui fonctionnera comme un atelier d'écriture. Tout d'abord, je me présente, Christian. Je suis animateur dans un atelier d'écriture à l'ALEP, les mardis de 14h15 à 16h15, sauf vacances scolaires. Ce n'est pas un cours, pas un essai littéraire sur l'œuvre du maître, juste mes impressions, mes coups de cœur, en essayant d'être le plus possible en dehors des sentiers battus. Alors comment et que va-t-on faire? Je vais vous présenter quelques bouquins. Pour aujourd'hui, j'en suis personnellement à 8 lus, dont un en 3 tomes. Je vais vous lire quelques passages, vous donner mes impressions. Puis à la fin de l'émission, je donnerai une consigne d'écriture et une adresse où envoyer vos textes. Et on en prendra peut-être un ou deux ou plusieurs parmi les 1000 reçus, bien entendu, pour les publier sur une page Facebook dédiée. Les textes devront tenir sur maximum 2 pages à 4 et comporter, évidemment, comme dans tous les ateliers, un titre et une chute. Tout ce que je viens de dire, évidemment, apparaîtra sur le site de studiozef.fr que vous pourrez consulter et postcaster. Allez, on y va pour aujourd'hui. C'est l'univers de Haruki Murakami, écrivain japonais dont je vais vous parler. Tout ce que je dirai ici pourra être évidemment retenu contre moi, mais j'implore votre indulgence pour votre humble serviteur. Voilà, maintenant on peut commencer par une citation de l'auteur sur la page Facebook. J'ai eu ça par les éditions 10-18, qui publient pratiquement toute l'œuvre de Murakami. « Si vous ne lisez pas ce que tout le monde lit, vous ne pouvez penser que ce que tout le monde pense. » Cette citation se trouve dans la Ballade de l'Impossible. Je vais vous lire un passage de la Ballade de l'Impossible. « Je ne dis pas que je n'ai pas confiance dans la littérature contemporaine, mais je ne veux pas gaspiller un temps précieux en lisant des œuvres qui n'ont reçu le baptême du temps. La vie est courte. Quels sont les auteurs que tu aimes ?» lui demandai-je. « Balzac, Dante, Joseph Conrad, Dickens, me répondit-il aussitôt. » On ne peut pas dire que ce soit des auteurs d'actualité. C'est justement pour ça que je les lis. Quand on lit la même chose que tout le monde, on ne peut que penser comme tout le monde. Cela fait pecno et vulgaire. Quelqu'un de sérieux ne s'amuse pas à ce genre de choses. Est-ce que tu sais, Watanabe, que dans ce foyer, toi et moi sommes les seuls à peu près convenables. Tous les autres sont bons à mettre au panier. Comment peux-tu le savoir ? Lui demandai-je surpris. Je le sais. C'est comme si nous avions une marque sur le front. Je le vois tout de suite. Une particularité des romans de Murakami, c'est qu'il peut faire parler les femmes et les hommes à la première personne. Si on considère qu'il y a une part d'autofiction dans un roman, alors est-il homme et femme à la fois? Ici, une fille, dans ce même livre, envoie une lettre à son amoureux, toujours donc dans Ballade de l'Impossible. Ce qu'elle dit est très intime, profond. Je fais du tennis et du basketball. L'équipe de basket est composée de patients. Je n'aime pas ce mot, mais on n'y peut rien, n'est-ce pas? Et de membres du personnel. Mais quand je suis prise par le jeu, je finis par ne plus faire de différence entre les deux. C'est curieux, n'est-ce pas? C'est bizarre. Mais quand je regarde les autres alors que nous jouons, ils me semblent tout aussi tordus les uns que les autres. J'en ai parlé un jour au médecin qui s'occupe de moi. Et il m'a dit que, dans un certain sens, ce que je ressentais était vrai. Il m'a expliqué que si nous étions là, ce n'était pas pour corriger cette torsion, mais pour nous y habituer. Et que l'un de nos problèmes était que nous étions incapables d'accepter cette torsion. Il paraît que, de la même façon, que chacun d'entre nous a sa propre façon de marcher. Nous avons chacun a notre manière de sentir, de réfléchir, de voir les choses, et que même si l'on veut se corriger, cela ne se fait pas en un jour, et que si l'on se force, ce sont d'autres endroits qui deviennent bizarres. Bien sûr, c'est une explication très simpliste et qui ne concerne qu'une partie du problème que nous avons, mais il me semble que j'ai vaguement compris ce qu'il m'a dit. Peut-être ne pouvons-nous pas nous adapter correctement à notre torsion. C'est pour cela que je n'arrive pas à bien me situer à l'intérieur de moi. La douleur, la souffrance réelle, engendrée par cette torsion. Et c'est pour me délivrer de cela que je suis ici. Tant que nous sommes là, nous ne faisons pas souffrir les autres, et les autres ne nous font pas souffrir à leur tour.
parce que nous savons tous que nous sommes tordus. L'endroit où nous sommes est complètement différent du monde extérieur. À l'extérieur, la plupart des gens vivent sans être conscients de leur propre torsion. Et c'est justement cette torsion qui est la condition préalable nécessaire pour vivre dans notre petit univers. Nous l'arborons comme un indien les plumes qui signe son appartenance à la tribu. Et nous vivons dans la discrétion pour ne pas nous blesser mutuellement.
Cette bisexualité est peut-être pour Murakami sa torsion. La pièce maîtresse de l'univers de Murakami, ce sont les trois tomes de 1Q84. La structure du roman est particulière. Il fait s'enchevêtrer deux histoires de deux personnages, Aomame et Tengo. Les deux vont converger à travers leur histoire d'amour, mais en passant par des chemins semés d'embûches et de doutes. Tengo est écrivain et il doute de lui-même, de ses capacités. On retrouve souvent le thème du manque de confiance en soi chez l'auteur. Pour rejoindre Tengo, Aomame devra d'abord sortir de notre univers dans un monde presque équivalent où surgissent des êtres fantastiques et des sectes violentes qu'il faudra vaincre. L'idée de monde parallèle est issue des théories du prix Nobel de physique Feynman. Utilisée dans « À la croisée des mondes », la trilogie de Pullman, par exemple, plus connue au cinéma avec « La boussole d'or ». Le passage dans la science-fiction est subtil. Pas de machines volantes et d'extraterrestres. Je vais vous lire un passage de la Q84 sans dévoiler le mystère. Nous sommes dans un taxi. Aomame doit aller à un rendez-vous important, mais elle est coincée dans un embouteillage. Le chauffeur écoute « Symphonietta » de Janek. Et Aomame décide de sortir à pied de l'autoroute. Voilà ce qu'elle entend sur ce court extrait pour se mettre dans l'ambiance. Il ne faut pas se laisser abuser par les apparences. Il n'y a toujours qu'une réalité, dit le chauffeur. Aomame prit une grande inspiration et souffla profondément. Puis elle escalada la grille métallique, avec la mélodie de Bill Jean dans les oreilles. Elle avait roulé sa mini-jupe jusqu'aux hanches. Et après, se dit-elle, regardez si ça vous chante. C'est ce que vous voyez sous ma jupe. Ça ne vous dit rien, ce que je suis vraiment. Par ailleurs, Aomame estimait que ses jolies jambes, sveltes, étaient ce dont elle était la plus fière. Une fois de l'autre côté de la grille, Aomame remit sa jupe en place, s'épousta les mains, enfila de nouveau son manteau et reprit son sac à l'épaule. Elle rajusta soigneusement ses lunettes de soleil. L'escalier de secours était là sous ses yeux, un escalier métallique peint en gris, un escalier simple, pratique, conçu uniquement pour être fonctionnel, qui n'avait pas été prévu pour être utilisé par une femme en collant sans chaussures, vêtue d'une mini-jupe moulante. Genko Shimada non plus n'avait sûrement pas dessiné son tailleur dans l'idée qu'une femme le porte en descendant l'escalier de la voie express numéro 3, réservée aux évacuations d'urgence. Un gros camion qui passait sur la voie opposée le fit trembler. Le vent s'engouffrait entre ses barreaux métalliques. Il n'empêche, c'était un escalier, et en bas, il y avait la terre ferme.
Puis nous retournons dans l'univers de Tengo, nous laissons à Omame. Le premier souvenir de Tengo remontait au temps où il avait 1 an et demi. Il voyait sa mère, son chemisier, sa combinaison blanche descendue au-dessous de ses épaules. Et un homme, qui n'était pas son père, lui suçait les seins. Il y avait un bébé dans le lit d'enfant, probablement Tengo. Il se regardait lui-même en tant que tierce personne. Ou bien était-ce son frère jumeau ? Non, sûrement pas. Il s'agissait bien de Tengo, à l'âge 1 an et demi. Intuitivement, il le savait. Le bébé, les yeux fermés, sommeillait en petit souffle paisible. Tel était le premier souvenir de Tengo. Cette scène d'environ 10 secondes s'était gravée très nettement sur le mur de sa conscience. Il n'y avait rien avant, rien après. Cet unique souvenir émergeait au-dessus des eaux troubles comme une flèche pointante au-dessus des rues envahies par les flots d'une gigantesque inondation.
Et on arrive encore à Omame, qui arrive en bas de l'escalier et commence à vouloir rejoindre la gare. Des petits détails l'inquiètent.
Elle croisa un agent de police à la gare de Sanjeneya, un homme grand et jeune, qui avançait rapidement. Un court instant, elle se sentit nerveuse. Mais le policier paraissait pressé. Il marchait droit devant lui et ne lui accorda pas le moindre regard. Juste avant qu'ils se croisent, elle remarqua qu'il avait quelque chose d'inhabituel dans son uniforme. Ce n'était pas la tenue qu'elle connaissait. La veste était toujours bleu marine, mais la coupe avait changé. Plus confortable. Pas aussi ajustée qu'auparavant. Le tissu semblait aussi plus souple. Le col était un peu plus court et la couleur légèrement plus claire. Et puis, son arme était différente. L'homme portait à la ceinture un automatique de gros calibre. D'ordinaire, les armes des policiers japonais sont des revolvers. Comme les délits en main armée sont très rares, les policiers ne se retrouvent presque jamais pris dans une fusillade. Ils peuvent donc se contenter des modèles anciens à 6 coups. Ces armes bon marché possèdent un mécanisme simple, s'enraient rarement et sont d'un entretien aisé. Et pourtant, pour une raison inconnue, ce policier était muni d'un semi-automatique dernier modèle. Une arme qui pouvait recevoir jusqu'à 16 balles de 9 mm, peut-être un Glock ou un Beretta. Enfin, que s'était-il passé ? Les normes des uniformes et des armes auraient changé et elle aurait tout ignoré ? Non, c'était invraisemblable. Aomame lisait assidûment les journaux et si ce changement avait bien eu lieu, on l'aurait annoncé à grand bruit. De plus, Aomame était toujours très attentive à l'allure des policiers. Jusqu'à ce matin, à peine quelques heures plus tôt, ils portaient leur uniforme raide de toujours. Ils étaient armés de leur revolver rustique de toujours. Elle s'en souvenait parfaitement. Étrange.
Enfin, dans ce livre, Tengo écrit un roman, La chrysalide de l'air. Mais c'est quoi une chrysalide de l'air ?
Vous le saurez en lisant 1Q84 de Murakami.
Plusieurs types d'histoires s'enchevêtrent, se recoupent, deviennent réalité ou fiction. C'est ça, l'univers de Murakami. Maintenant, on va faire une petite pause musicale avec un autre écrivain, Dashiell Hedaya, de son vrai nom, Jack Alain Léger, qui a écrit et chante des textes pour le groupe Gong en 1971, sous le titre « Obsolète ». Ça ressemble étrangement à l'univers de Murakami. Ici, le morceau déjanté « Long Song for Zelda ».
Ce disque idiot qui est rayé au milieu et les tarots que je te tire sur ton châle en camailleux. Sens.
contempler les novas, les anneaux de Saturne. Je veux dire, j'étais mon jean vide et mon blouson qui flottait à un bâton d'os. Les offrias de la cam. J'étais le singe du travail. Tu te souviens, Paul Winnie? Oui, j'étais vraiment lui. Le cul rose sur le rebord du canapé. Le singe du travail. Ses petits doigts noirs. Tu sais qui caressait mon cul comme une plaie ouverte. Mon nez, je peux dire. Mon nez où s'engouffraient les autos comme dans un tunnel. Avec de leurs tuyaux d'échappement, des nuages d'héroïne, le cheval vapeur, horsepower, horsepower, à écouter un vieux jazz. Vieux bar, avec du papier de soie colltré, je veux dire, tu vois, dans les chiottes, quelque chose comme ça, et moi devant le cul, dans le canapé. Et le flottement indécis d'un drapeau de trottoir. La et des étoiles qui tournaient partout, tout autour de ma tête, ma cervelle de cam, mes eaux friables qui un jour disparaîtraient aussi dans l'eau du canyon, avec mon reflet, avec mon nez brûlé reflet. Celui qui a vu un bout d'or et des boulets et qui pringalait tous les images de la rue de l'Angle derrière à la laisse à ses traînants. Que tu es bon, boule d'or, que j'aime ta robe roquille. Sa pline bleue pour pisser. Combien je t'aime. Et au bout de la laisse, Zelda. Un peu vieux me fait-elle votre procédé. Détrompez-vous, c'est toujours efficace avec un chien. Ce n'est pas à vous que ce compliment est adressé. Vous l'avez cru parce que vous êtes rousse aussi. C'est pour votre chien que mon cœur bat. Non, je veux dire, je dis ça comme ça. Les chiens rouent dans la nuit. La nuit rouent. Les chiens rouent. Et toi? Toi tu es dans la...
passent, je peux les voir dans la glace de l'armoire.
Toujours des êtres qui se croisent, qui tombent amoureux, qui se perdent de vue, qui se retrouvent, comme dans l'incolore Tsukuru Tazaki et ses années de pèlerinage. Des personnages sans lien apparent qui se rejoignent à travers leur histoire parallèle et croisée.
Désolé, mais nous ne voulons plus que tu nous téléphones désormais, déclara Bleu. Aucune formule de politesse en préalable, ni « Allô, c'est toi ?» ni « Tu vas bien ?» ni encore « Ça fait longtemps ?» Désolé, fut sa seule marque de civilité. Tsukuru prit une inspiration et se répéta mentalement les mots de Bleu, tentant de déceler une émotion dans les intonations de son mari. Mais il ne s'agissait de rien d'autre que d'une déclaration de pure forme, dénuée de sentiments. « Si vous refusez tous que je vous appelle, eh bien évidemment je ne le ferai plus », répondit Tsukuru. Les mots sortaient de sa bouche presque mécaniquement. Il avait voulu parler d'un ton très calme et très ordinaire, mais il reconnut à peine sa propre voix. À ses oreilles, elle résonnait comme celle d'un parfait inconnu. La voix de quelqu'un qui vivait loin de cette ville, qu'il n'avait jamais rencontrée, et que sans doute il ne rencontrerait jamais. « Exactement, ne le fais plus, » dit Bleu. « Je n'ai pas l'intention de m'imposer, » ajouta Tsukuru. Bleu fit entendre un bruit qui n'était ni un soupir, ni un grognement d'approbation. « Pourtant, si c'est possible, j'aimerais connaître la raison de cette décision, » reprit Tsukuru. « Ce n'est pas de ma bouche, en tout cas, que tu l'entendras, » répondit Bleu. « De celle de qui, alors ?» Il y eut un silence à l'autre bout du fil, un silence semblable à un solide mur de pierre. Tsukuru entendait Bleu respirer légèrement par le nez. Il attendit en revoyant mentalement le nez plat et épais de son ami. « Si tu y réfléchissais par toi-même, tu devrais sûrement pouvoir le comprendre, non ?» déclara-t-il enfin.
Et là commence le déclin, jusqu'au renouveau à travers son pèlerinage. La recherche, sa vie durant dans son monde normal et banal de Shimamoto-san, son amour d'enfance, au sud de la frontière à l'ouest du soleil, retrouvailles encore et découvertes de soi après une catastrophe après le tremblement de terre. Des petites choses qui montrent que le récit n'est qu'une interprétation métaphorique du réel, un peu comme dans un rêve.
Comme
dans Kafka sur le rivage.
Toutefois,
un livre que j'ai moins aimé et abandonné, un petit livre où l'auteur parle de lui et de ses passions. Autoportrait de l'auteur en coureur de fond.
Avant de vous parler d'un autre livre, je vais vous passer une pause musicale avec Gong, un univers entre la science-fiction et la magie.
Donc une petite pause musicale avec Gong en live. We'll be right back.
pour ceux qui n'aiment pas les gros pavés, genre AQ84 ou Kafka sur la plage, un petit bouquin sympathique qui s'appelle Le passage de la nuit. Tout se passe en une nuit, dans une ville. Petit à petit, le réel est sublimé par des événements bizarres. Le mystère s'épaissit, passionnant. Les titres de chapitres ne sont que l'heure sur une horloge. Dans le passage de la nuit, nous sommes comme derrière une des caméras de surveillance, en spectateur d'une espèce d'humanoïde qui évolue une nuit dans une ville, n'importe quelle ville. Notre regard balaye la salle et se pose sur une fille seule, installée côté vitrine. Pourquoi elle? Pourquoi pas quelqu'un d'autre? Aucune raison spéciale à cela, mais cette fille attire notre regard. Naturellement, elle est assise à une table pour quatre personnes. Elle lit un livre. Elle porte un jean bleu, un sweat gris, à capuche et des tennis jaunes délavés. Un blouson de sport est posé sur le dossier de la chaise d'à côté. Il ne semble pas très neuf non plus. L'âge de la fille, étudiante de première année. Elle n'est plus lycéenne, mais elle en conserve l'allure. Des cheveux noirs, courts et raides, presque pas maquillés. Aucun accessoire. Un visage menu, des lunettes à monture noire. De temps à autre, des rides se marquent entre ses sourcils, lui donnant une expression sérieuse. Mais encore une fois, la réalité est sublimée vers des choses purement métaphoriques, étranges. La télévision est allumée. Harry, en pyjama, regarde de ce côté depuis l'intérieur de l'écran. Ses cheveux lui tombent sur le front. Elle agite la tête pour les chasser. Elle pose ses paumes sur l'écran, essaie de dire quelque chose dans notre direction. Exactement comme quelqu'un qui serait perdu dans un grand aquarium vide et qui, à travers l'épaisse cloison de verre, essaierait d'expliquer son désarroi aux spectateurs. Mais cette voix ne parvient pas à nos oreilles. La voix d'Eri est impuissante à faire vibrer l'air de notre côté. On peut encore noter qu'il y a dans l'attitude d'Eri quelque chose en rapport avec ses sens anesthésiés. On dirait qu'elle n'a plus la force de commander à ses membres. Sans doute a-t-elle dormi trop longtemps, trop profondément. Elle essaie pourtant à tout prix de se figurer, ne serait-ce qu'un tout petit peu, la situation inconcevable dans laquelle elle se trouve. Malgré ses hésitations et une certaine confusion, elle engage son énergie à appréhender, à avaler la logique ou la norme qui prévaut en ce lieu. Son désir passe à travers l'écran. Ici, puisque nous pouvons voir vivre des gens à travers des écrans, pourquoi ces gens ne seraient pas amenés à être transportés de l'autre côté de l'écran? Un petit intermède musical signé Mona Lisa, avant qu'il ne soit trop tard, avant de passer à l'atelier d'écriture.
Proprement dit, avec évidemment une consigne.
J'aimerais découvrir des mondes inconnus. Avant qu'il ne soit trop tard, je voudrais que mes fantasmes ne soient plus des désirs défendus. Avant qu'il ne soit trop tard, j'exige que ma main ne soit plus hésitante. Devant la feuille blanche où se perdent tant de mots, que pour toi, mon ami, de ton regard sévère, qui condamne tant de choses, je ne sois plus une ombre impalpable. Un mirage. Avant qu'il ne soit trop tard, je ne veux plus vivre vos sabbats infernaux où l'amitié s'égare dans l'hypocrisie et la peur du nouveau. une lueur d'espoir vacille sur mon espérance. Comme une barque chavire sur un océan de goudron. La démarche incertaine, je suis là devant vous et je tremble. Comme le condamné fumant sa dernière cigarette. Comme un chien éperdu qui pleure son malheur pour un maître éloigné. Il existe encore des contrées où notre esprit divague, comme au soir d'un orage, lorsque les ténèbres étendent leur noir manteau et que le ciel s'éclaire d'étranges phosphorescences. Il y a des morts par les quatre vents, et quand ils sont réunis sous le coup de minuit, ils se mettent à jouer aux cartes. Le temps ne compte plus, cela peut durer des heures, des jours. Avant qu'il ne soit trop tard.
On en arrive à votre tour. Donc, comme tous les ateliers d'écriture, il va falloir passer à l'écriture. Donc, écrivez une histoire à partir d'un événement que vous avez vécu et inexpliqué, rapporté dans une fiction. Le texte commencera par « C'est bien le diable !» s'écria la grand-mère épouvantée. Maximum 2 pages à 4 avec un titre et une chute. Une fois que vous aurez écrit cette étrange histoire, vous envoyez, si vous voulez bien, envoyez votre texte sur l'email de Studio Zef prévu à cet effet, qui s'appellera lire et écrire @studiozef.fr. Les références seront sur le site de Studio Zef dans le podcast de l'émission. Les références des livres que j'ai cités sont pour la plupart en édition 10-18, sauf pour l'incolore Tsukuru Tsuzaki et ses années de pèlerinage que je possède aux éditions Belfond.
Je vous rappelle la consigne, faire un texte sur un événement étrange qui commence par « C'est bien le diable !» s'écria la grand-mère, épouvantée, sur 2 pages à 4 et l'envoyer à lire et écrire, attaché, @studiozef.fr.
Voilà, donc je vous encourage aussi à lire Murakami et son étrange monde qu'il s'est créé à travers ses livres. Merci.
À bientôt, à vous lire et peut-être aussi pour écouter une nouvelle émission.